Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme de ce deuxième épisode de la saison 11 de Silence on Joue. Oui, on est désolé, il y a eu un raté la semaine dernière, mais ça n'arrivera plus, ou pas trop souvent en tout cas. Au programme, donc, je le disais, on continue. Alors, c'est a priori la dernière émission dans ce format-là où on va un peu surcharger en jeu, moins qu'il y a deux semaines, mais quand même. Dans cette catégorie, on va parler de Tacoma, de Divinity Original Sin 2, de Observer et de Absolver. Et puis, pour quand même coller un petit peu à l'actualité, nous allons parler de The Evil Within 2, le retour de Shinji Mikami et de l'horreur un peu absolue, enfin voilà, un peu flippante, un peu psychologique, mais pas que, et gore et tout ça. Bref, programme chargé, pas de Monsieur Fall cette semaine, mais il a promis qu'il serait de retour, peut-être pas d'une manière aussi assidue que les saisons précédentes, mais quand même il sera là dans pas longtemps. Et je commence donc en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Yann François de JV et de ZUSD. Bonjour Yann.
Bonjour Erwan.
Comment ça va?
Ça va bien, je suis content de revenir, ça faisait longtemps.
Mais oui, c'est ouais. Cool. Et Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Ce qui fait toujours plaisir.
Pareil.
On commence avec toi Yann, avec Humble Bundle.
Oui, il y a eu quelques jours, on a eu l'annonce d'un rachat à la fois impressionnant et en même temps assez intriguant. Donc c'est le groupe IGN qui a annoncé avoir racheté la Humble Bundle. Donc Humble Bundle, c'est une société américaine qui a été fondée à San Francisco en 2010, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait son business sur la vente de jeux, de lots de jeux à prix cassé, généralement. Voilà, à fréquences, avant c'était mensuel, depuis ils ont augmenté, sachant que les ventes étaient en partie redistribuées vers des organisations à but non lucratif. Et donc le système, c'est que on avait un bundle souvent thématique, genre horreur, et l'acheteur pouvait, selon un curseur, décider du pourcentage qu'il attribuait à un bundle, au développeur lui-même, ou au studio, éditeur, et la part aux organisations caritatives. Donc ça a explosé hein, à ce moment-là, ça a été vraiment le fer de lance, d'autant plus que voilà, les périodes de soldes Steam, ça a vraiment prospéré. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie plus de 70 salariés, qui a récolté près de 100 millions de dollars pour les organisations. Bon, ils disent pas ce qu'eux ont touché, ils sont assez malins. Et donc, forcément, ça a attiré pas mal de monde, et notamment IGN. Donc IGN, c'est un consortium médiatique hein, qui a été créé en 96. Ça a été un des premiers sites web dédiés aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est le deuxième mondial après Yahoo qui gère plus d'une centaine de millions d'abonnés mensuels. Donc forcément, ils ont annoncé avec une grande fierté qu'ils faisaient partenariat. Donc derrière tout ça, il y a évidemment IGN qui, en faisant cet acte, redore un peu le blason, parce que forcément, ils financent et aident, parrainent, on va dire, un système qui est quand même lié selon la vertu du don et de la charité.
Une bonne image, mais
tout à fait. Et c'est, je pense, aussi l'occasion pour Humble Bundle de bénéficier d'un impact beaucoup plus fort en termes de catalogue. Ils auront une offre beaucoup plus impressionnante et peut-être liée à l'actualité. Alors évidemment, ça a fait grincer des dents beaucoup, puisque le rachat d'une entreprise qui est quand même dédiée à la charité par un grand groupe, voilà, ça peut mettre en péril la mission. Oui, c'est ça. et surtout la marge de liberté peut être offerte à Humble Bundle par rapport à ça. Évidemment, tout le monde se veut très rassurant. Le chef d'IGN...
Et le côté volontaire aussi des développeurs et des studios qui filent leur jeu pratiquement pour rien.
Enfin, oui, parce que...
Et filer son jeu à Humble Bundle, c'est une chose. Le filer à IGN, c'est autre chose.
Absolument, d'autant plus que Humble Bundle s'est toujours situé en opposition à Steam dans le fait qu'ils cassaient les DRM, les fameux droits qui empêchent de prêter les jeux, eux se situaient vraiment sur un aspect vertueux, un peu comme GOG de son côté. Et donc forcément, il y a une espèce de pression et de soupçon. Et le boss d'IGN s'est voulu rassurant en disant qu'à court terme, les objectifs resteraient les mêmes. Alors forcément, à court terme, ça peut faire sourire, puisqu'à long terme, il est évident que la synergie va se mettre en place, puisque l'un a besoin de plus de visibilité, l'autre a besoin de encore plus alimenter sa base d'utilisateurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, par rapport à la création en 2010 et ce que c'est devenu Humble Bundle, la façon, donc ça ne concerne plus que les jeux, il y avait des bouquins aussi, il y avait des logiciels à prix cassé. Il y avait tout un système d'abonnement où tu pouvais donner une somme et tu recevais une sorte de pack un peu secret, on ne t'annonçait pas les jeux. Donc il y a quand même une logique entrepreneuriale qui était très très forte et qui forcément trouve un écho tout à fait logique avec celle d'IGN.
D'accord, on va suivre ça. Mauvaise nouvelle pour toi, Patrick ?
Deux très mauvaises nouvelles cette semaine. Je suis comme ça, je vous apporte des mauvaises nouvelles à table. Je suis désolé, je vais casser l'ambiance. Non, moi j'étais vraiment déçu, je vous dis très, très franchement, secrètement, j'attendais toujours un reboot de Dead Space, moi qui est un de mes titres qui m'avait beaucoup marqué sur la génération précédente. Ça me semble mal parti, puisqu'on a appris cette semaine que Electronic Arts fermait le studio Visceral Games, studio californien. Je me suis repenché un petit peu sur leur ludographie plutôt, assez impressionnante, parce que Dead Space, évidemment, très marquant, parce que c'était pour moi vraiment un héritier de Resident Evil 4, un peu comme le jeu dont on m'a parlé tout à l'heure, mais d'une autre manière, qui avait pas mal assimilé les codes du survival en les reboostant. Enfin, pour moi, le premier Dead Space, c'était vraiment... C'est un jeu que j'ai dû refaire 3 ou 4 fois, parce qu'il y avait des vraies fulgurances de mise en scène, il y avait des choses très très bonnes. Ils n'ont pas fait que ça, ils avaient fait aussi des jeux James Bond, plutôt pas mal. Il y avait Bon Baiser de Russie, qui était plutôt pas mal à l'époque. Ils avaient signé aussi Dante's Inferno. Bon, voilà, ils avaient fait plusieurs jeux plutôt intéressants, qu'une évolution... intéressante sur le temps, et surtout ils travaillaient actuellement sur un jeu Star Wars très narratif visiblement, jouable a priori en solo, donc c'est un peu ce qu'on attend depuis des années, c'est d'avoir un vrai jeu d'action-aventure Star Wars. Ben voilà, pour moi Star Wars c'est ça, on a des MMO, on a des choses jouables en ligne, c'est très très bien, on est content, mais Star Wars, on est dans un univers où on veut du scénario, on veut retrouver, moi je veux retrouver le frisson des Dark Forces, des X-Wing et compagnie. Et voilà, en fait, c'est un univers qui s'y prête vraiment. Et là, eux travaillaient sur un projet donc d'univers solo qui, a priori, donc, est complètement remis en question. Il va sortir, en tout cas, ce projet donc de Star Wars qui était en développement, qui était en plus chapeauté par Amy Henning, c'est une ancienne de Naughty Dog qui avait travaillé sur les 3 premiers, je crois. Donc voilà, une personnalité du jeu vidéo et notamment qui avait justement cette approche narrative, action-narration assez orientée cinéma qui était vraiment pertinente pour un jeu Star Wars.
Oui, tout c'est ça, sûr que de l'Uncharted version Star Wars, ça peut être pas mal.
Il y avait quelques images qui étaient passées, il y avait eu un teaser, il y avait quelques images qui étaient plutôt emballantes. Enfin, moi, je me disais, ça y est, on va retrouver du Star Wars. Bon, c'est... Le projet n'est pas annulé, mais là, il serait reparti chez Vancouver. Et Electronic Arts parle d'un jeu qui va sûrement muter. Moi, je pense qu'il va finir en jeu multijoueur en ligne ou quelque chose comme ça.
Il est question, effectivement, d'aller du côté du jeu-service, hein, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Et de faire une sorte de Destiny.
Moi, j'ai rien contre les jeux en ligne. Au contraire, je trouve que c'est dans le sens de l'évolution. Mais Star Wars, on attend tous ce retour à quelque chose de, voilà, de consistant en termes de campagne solo. En tout cas, Visceral Games, c'est une grande perte. Moi, c'est un studio que j'aimais bien. Et encore une fois, Dead Space. Alors, peut-être un remaster, ça serait bien que le premier ressorte d'une façon ou d'une autre, parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être fait. Si vous pouvez le lancer aujourd'hui sur une PS3 ou une Xbox 360 ou un PC.
Et apparemment, c'était toujours une licence qui n'a jamais été rentable pour eux. Enfin, pour les.
Oui, je sais quoi, c'était la vague où Electronic Arts avait essayé d'un peu renouveler son édito avec. Il y avait eu un autre titre en même temps.
Mirror's Edge.
Exactement. Voilà, c'était un peu les deux titres à l'époque qui ont fait un peu des fours, malheureusement. Mais Dead Space, c'était vraiment un four pas mérité du tout. Parce que.
Non, mais les deux et trois étaient quand même
les suites
assez
étaient beaucoup moins bonnes parce que justement il y avait une direction un peu plus. On sentait qu'il y avait eu des compromis, que le jeu était beaucoup moins hardcore et bon, moins intéressant. Puis l'autre mauvaise nouvelle, parce qu'on va pas s'arrêter là, on continue, on enchaîne, c'est Eurogamer qui croit savoir que Lego Dimension, c'est fini. C'est le site qui en général ne sort pas n'importe quoi. C'est fendu d'un long article qui est titré, je crois, la triste lente mort de Lego Dimension. C'est triste. C'est triste parce que Lego Dimension, c'est un peu le dernier acteur en dehors de Nintendo avec les Amiibo.
Ils ont eu le temps de faire des adaptations de tous tes films des années 80.
C'est exactement ce que je voulais dire.
C'est bon, Gremlins, c'est bon, Retour vers le futur, c'est bon.
Les Goonies, K2000 et l'Agence Touriste. Voilà. Alors, effectivement, il y a une belle perte. Il faudra, si vraiment, parce qu'on n'a pas encore eu de confirmation de Warner, c'est pas acté officiellement, mais bon, il y avait déjà des rumeurs qu'à un moment il y avait moins de sorties, il n'y avait pas trop de projections. A priori, il y avait des plans sur 3 ans, ils ont un petit peu raccourci parce que visiblement c'est compliqué, le développement un peu chaotique a priori. Ça s'arrête, effectivement, on va garder ces fulgurances, hein, ces petites figurines K2000 et moi j'avais tellement d'espoir, Deux flics à Miami, Les maîtres de l'univers, il y avait tout un réservoir de licences 80s à essorer, alors j'espère que peut-être un jour un revival, c'est un peu dommage. On attend une confirmation officielle, mais en tout cas, bon,
on n'est pas en train d'assister, bon, mis à part les Amiibo qui restent, mais les Skylanders, ils en sont où?
Ça va quand même pour eux,
Ils sont en pause quand même, là. Ils ont sauté quand même une saison, on ne sait pas trop où ça va. Ils risquent peut-être même de changer de forme, a priori. D'accord. La licence risque d'évoluer sous d'autres formes que le... En tout cas, voilà, le jouet connecté.
C'est un peu comme si les Amiibo avaient un peu drainé un peu tout
le temps. Bah, quelque part, eux continuent, parce que là, il y en a toute une vague qui sort avec la nouvelle vague Zelda, il y a une vague avec le nouveau Mario. Nintendo tient le coup sur le... Et c'est un peu le dernier, a priori.
Il y a Ubisoft qui va tenter son coup avec les jeux de vaisseaux spatiaux, j'ai oublié le nom.
C'est le dernier qui relance un petit peu la catégorie. Après, il faudra voir comment ça se présente. En tout cas, c'est un peu la crise.
Eh bien, on va commencer. Ah oui, alors, petit aparté. Bah oui, nous sommes la deuxième émission. Donc, normalement, à ce niveau-là de l'émission, il y aurait dû y avoir...
La question, la minute culturelle.
Ça fait au moins 3 ans qu'il n'y a pas de minute culturelle.
Il faut pas oublier, il faut essayer de la
Non, le com des com. J'ai oublié. Voilà. C'est naze. Bon, c'est pas grave. On va enchaîner, promis. Donc, vous pouvez réagir à l'émission partout, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Mais le centre névralgique de la communauté de Science en Joue, c'est quand même le forum officiel de Science en Joue que vous pouvez trouver par Google. Hein. Vous mettez forum officiel Science en Joue.
Et tu feras un com des coms dans la prochaine.
Et voilà, mais promis, je ferai même un bilan de la première aussi. Allez, on va faire ça. Mais c'est le moment de commencer ce programme chargé avec un jeu sorti en août, très attendu parce qu'il est l'œuvre de Fulbright, c'est-à-dire le studio à l'origine du très marquant Gone Home, hein, qui avait quand même fait beaucoup parler de lui, et donc ils sont sortis leur deuxième jeu en version spatiale qui se passe en orbite, c'est Tacoma. Welcome aboard. Would you stay forever? Gather round everyone for your enjoyment tonight. In the field of shattering things. Odin, what was that? Meteor Prowler? Pick up those pieces they need to me. External communications have been lost. Don't worry,
On l'attendait quand même, on en avait entendu parler depuis pas mal de temps de ce Tacoma, et puis ça interrogeait quand même, parce que Gone Home étant un jeu très ancré dans le réel, très contemporain, enfin vraiment qui avec des références, on était aujourd'hui, enfin on était vraiment dans le monde d'aujourd'hui dans Gone Home, et là direct ce studio là qui donc s'était fait connaître pour cette approche du jeu narratif très très spécifique, sort un jeu dans l'espace. Alors forcément ça pose des questions, et puis bah, on se rend compte quand même assez vite qu'ils ont gardé cet aspect, ce rapport à la narration, un rapport original, et qu'ils ont réussi à ramener des choses. Yann.
Oui, effectivement, même s'ils partent sur le thème de la SF, on reste dans une approche presque pas réaliste, mais quand même anti-spectaculaire, si j'ose dire.
Intimiste.
Ouais, c'est ça. Donc on incarne une jeune ingénieure qui est appelée sur une station orbitale qui a été abandonnée par ses occupants suite à un problème d'ordre technique apparemment, c'est ce qu'on apprend, et qui est chargée de faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé. Donc elle visite, comme dans Gnome, un espace vidé de ses habitants, et elle doit retracer un peu comme une archéologue l'histoire, le passé des lieux en fouillant. Alors à la fois les environnements de chaque personnage, je ne sais plus, il y en a 6 des anciens occupants, mais surtout, et c'est la grande différence avec Gnome, elle a un système de réalité augmentée qui lui permet, outre d'interagir avec l'IA du vaisseau qui représente la petite pyramide avec l'œil, permet de relire des archives vidéo en hologramme des personnages, de moments de vie quotidiens pris à certains moments avant l'événement principal, et donc qui permet à la fois d'assister à cette vie de tous les jours, mais surtout les personnages eux-mêmes ont accès à leur propre interface, et il y a tout un système de puzzle dans lequel tu peux tu dois te déplacer pour aller regarder littéralement au-dessus de leur épaule pour voir les codes et tout ça et débloquer des sésames. Donc c'est un jeu qui effectivement reprend le même système que Gnome, c'est-à-dire que vraiment tu fouilles la vie de fantômes qui sont là devant toi. Tu as un mélange de présent, de passé qui est à déterrer, et de présent, puisque les personnages ont l'air d'être à côté de toi et de jouer. Donc il y a un aspect très théâtral. D'ailleurs, là, je dois tirer mon chapeau à Fullride, parce que non seulement c'est un studio qui manifeste une écriture qui est très mature, qui est très proche de nous, enfin dans le réel et tout ça, mais surtout qui sait employer des acteurs, et vraiment la façon dont les, alors que c'est juste des hologrammes, c'est juste des bouts de pixels, la présence est vraiment signifiante, je trouve, de par le talent de chaque acteur à faire vivre son personnage, et du coup tu plonges dans leur destin et leur quotidien, et c'est vraiment, tu te les accapares de manière assez naturaliste. Donc on est en terrain conquis vraiment, si on a aimé Gnome, on ne pouvait qu'aimer Tacoma. Moi, je suis obligé de mettre un bémol quand même, parce que je trouve le jeu très intelligent. Ça va fouiller des thématiques, et notamment sociétales. C'est-à-dire qu'on a beau être dans la SF, ça aborde des thèmes qui sont quand même très, très modernes et pas forcément adaptés, enfin, qu'on ne voit pas dans le jeu vidéo actuel. Et donc, ça fait du bien de voir des choses qui sont un peu adultes. Il n'empêche que, de par son statut un peu d'arlésienne, parce que le jeu a été reporté plein de fois, parce qu'il était plus ambitieux techniquement, il y avait un aspect d'attente par rapport à ça. Et du coup, j'ai eu l'impression, en jouant, d'être à la fois dans le contentement, c'est-à-dire on me donnait ce que j'avais envie d'avoir, mais ça n'allait pas au-delà. J'ai vraiment eu le sentiment que Fullbright s'installait dans une forme de charentaise, et moi avec. C'est-à-dire que c'est très confortable, on est très bien, et le dénouement qu'il faut vraiment garder secret est très fort, mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que Gnome m'avait vraiment marqué, à la fois dans la relecture des années 90, à la lumière des années 2000. C'est un jeu qui se présentait comme un jeu d'horreur de par son ambiance, vraiment la maison sous l'orage, abandonnée, tout ça, et qui allait progressivement vers le portrait générationnel avec des outils que seul le jeu vidéo arrive à créer. Et là, j'ai l'impression qu'il se contente un peu de ça.
C'est,
et...
c'est aussi un problème d'attente. Enfin, c'est la force de Gone Home aussi, c'est que personne ne l'avait vu venir et qu'on s'est retrouvé face à ce puzzle narratif où il fallait reconstituer une histoire. C'est un style de jeu qui prend aussi de l'ampleur depuis. Et là, on retrouve... Moi, j'ai été assez surpris par... en fait, ils utilisent beaucoup la technologie, l'univers qu'ils proposent, la science-fiction et ce genre de choses pour justement aller au-delà de Gnome et proposer des nouvelles choses. Il y a des idées très très bonnes d'interface. Enfin bon, pour moi qui regarde tous les trucs de réalité augmentée, passer par la langue des signes pour redonner les ordres aux intelligences artificielles et à ce genre de choses, je trouve ça assez malin. Ça crée une cohérence, enfin, comme si le truc était ultra pensé, la station orbitale est architecturalement pensée en termes de design. Je sais pas, on est dans quelque chose aussi réaliste, on est en 2088, et je sais pas, il y a un truc qui fonctionne assez bien. Patrick
J'ai eu vraiment la sensation d'être devant un jeu très pensé, très réfléchi. On sent que, il n'est pas très long, moi je l'ai terminé en 4 heures à peu près, quelque chose comme ça, mais très marquant. Enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait une densité narrative assez importante avec ces sections de... En fait, il est humain, ce jeu. Et c'est paradoxal, parce que souvent, justement, l'isolation dans l'espace, et ça, on le voit au cinéma, on le voit dans la littérature, l'isolement de l'humain dans l'espace, c'est là où, justement, l'humanité ressort le plus. Et quelque part, il y a ça, on retrouve ça dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on côtoie, finalement, pendant quelques heures, ces personnages qu'on va, comme tu disais, on va apprendre leur intimité, plein de choses sur eux, si on prend le temps d'explorer, de lire tous les... Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à apprendre. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est c'est paradoxal. On est dans un monde très techno dans le jeu. On est dans une base spatiale plutôt froide, plutôt inquiétante, avec une IA qui est omniprésente. Finalement, on est entouré que de fantômes numériques avec ses projections uniquement par informatique. Et finalement, il y a une humanité qui ressort de ces personnages dans leurs échanges. Je trouve que le jeu arrive vraiment à bien construire ça, à construire des personnages forts. On les oublie pas. Et il y a même des stimuli visuels, je trouve, avec les couleurs. Ils ont chacun, en fait, les personnages sont représentés visuellement avec une couleur. Il y a le médecin, il y a la mécano, etc. Ils ont tous ils ont un visuel, un look, et on les reconnaît très vite. Au bout de quelques minutes de jeu, on les reconnaît, on sait qui c'est lui, on va le suivre. Et il y a tout un jeu dans la partie où qui est cloisonné en plusieurs séquences temporelles, en fait. Et le but, ça va être d'écouter les différentes conversations, donc de revivre certaines scènes différemment, puisqu'en fait, ces différentes scènes de plusieurs minutes se jouent en temps réel, et on va pouvoir passer, nous, comme un électron libre, à écouter les conversations de chaque personnage et pouvoir reconstituer comme ça. On peut rejouer parfois 5-6 fois une scène en jouant avec le défilement du temps.
On peut voir les différents points de vue, les dialogues qui se déroulent dans différentes pièces. Par exemple, il y a 6 personnages, donc il peut y avoir 2 personnages par pièce. Et donc, on va suivre l'intégralité d'une situation en regardant 2 des personnages. Puis après, on va revivre la scène pour voir ce que disaient les autres.
Qui vont nous permettre de trouver un code pour ouvrir une porte qui était bloquée, ou des choses parfois moins importantes pour le déroulement du scénario, mais qui apporte une épaisseur dans l'intimité des personnages, dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est très très fort. Et puis aussi dans le fait qu'en général, dans un jeu vidéo, on est là pour agir. Le joueur, quand il est envoyé dans une base spatiale, il est là pour buter du monstre, de l'alien ou... voilà. Et en général, on est actif. Et là, on n'est pas actif. On n'est pas actif, on n'a quasiment pas d'action sur le lieu. On est uniquement là, dans une sorte d'exploration de ces mémoires virtuelles. Mais là où je trouve que c'est intéressant dans cette mise en scène, c'est qu'on est performatif en tant que... dans notre manière de les consulter, de nous-mêmes construire, de reconstruire une narration qui est, on pourrait dire en 4D, je ne sais pas comment on pourrait situer ça, mais en fait, on devient réalisateur quasiment, ou metteur en scène de cette pièce comme tu parlais. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la représentation théâtrale. On a vraiment ces séquences de théâtre, comme si on avait une pièce de théâtre en temps réel, dans laquelle on pourrait passer comme ça d'un acteur à l'autre. Et ça, je trouve que c'est très fort, et ça donne vraiment une densité aux personnages et à leurs interactions. Et ça, je trouve que c'est très très fort.
Il y a vraiment effectivement le fantasme du théâtral, et à la fois d'être monteur presque.
Monteur, parce que oui, tu as une timeline que tu peux. Réalisateur de son propre film, ou en tout cas de son scénario qu'on va écrire un peu d'une autre manière.
C'est vrai, et notre corps qu'on balade, c'est finalement la caméra qu'on choisit de placer par.
On voit quasiment pas nos mains d'ailleurs, on est quasiment omniscient. Ouais. On est quasiment une caméra, et ouais. c'est assez bien fichu.
C'est vrai que c'est très intelligent, c'est très pensé. C'est peut-être un peu calculé aussi, mais moi je dis pas que le jeu est mauvais, au contraire, il est très bon. Le seul problème que j'ai, c'est que finalement, tout ce que j'ai vécu dans ce jeu-là, je l'avais déjà vécu dans Gnome. Ah oui. Et je trouve que Gnome aller à une forme d'essentiel qui tenait justement à son personnage unique. Là, on est dans une logique collective et du coup, j'ai l'impression que ça se dilue. Bah, ça, pour moi, ça se dilue un peu. C'est-à-dire que le personnage de Gnome, la jeune fille dont on reproduisait le destin et la vérité intérieure, m'a terriblement plus marqué que n'importe quel des personnages que j'ai vus dans Takova.
La position est différente. Dans Gnome, on avait parti pris, vraiment, on faisait partie de l'action, enfin, je veux dire, du décor. Là, on est vraiment spectateur, limite voyeur même parfois. Mmh. On a presque une sensation d'être un voyeur en voyant certaines scènes, etc. On se dit, quelle est ma position en moi ? Mais justement, ça pose un rapport complètement différent, je trouve, à l'environnement. C'est ça où je trouve que c'est intéressant pour ça, c'est que j'ai l'impression que le studio a voulu aussi prendre de la distance par rapport au genre du Walking Simulator, en fait. Peut-être de le questionner d'une certaine façon. Alors, tout n'est pas réussi, je trouve qu'il est assez court, peut-être trop court. Je pense qu'il va trop vite, ce jeu. C'est vrai qu'en 4 heures, j'aurais pas été contre 2 heures de plus pour peut-être étoffer certaines parties du scénario. Je pense qu'il aurait pu, gagner à être un petit peu plus long. Mais je pense, j'ai eu l'impression qu'il y avait une volonté de questionner le genre de la narration comme ça, envisagée par le prisme d'un joueur qui se balade comme ça dans des endroits et qui récupère des données narratives et que nous-mêmes finalement devons mettre en place. Et ça, je trouve que pour moi, la position est quand même différente de Gone Home en termes de visite de lieux et d'exploration de branches narratives.
Tacoma, donc sur PC et sur les consoles aussi. Ce n'est pas un shooter, on est dans l'espace. On a parlé de Dead Space en début d'émission, mais ce n'est pas la même chose.
C'est vrai que le tempo n'est pas du tout le même.
J'aime beaucoup le truc, l'avertissement en début de jeu, où vu que tout en est capté holographiquement, on précise bien que tous les enregistrements holographiques restent la propriété de la multinationale. Et donc voilà, on retrouve des
clins d'œil. Il y a personne qui s'appelle Robert Williams, je sais pas si c'est fait pour ou pas, je sais pas si c'est un clin d'œil, je sais pas.
En Cassia.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Allez, on va attaquer un gros morceau, pas le morceau contemporain qui sera tout à l'heure avec The Evil Within 2, mais là, je me rappelle, on était passé à côté du premier dans Silence on Joue. On avait passé à côté du premier qui était quand même. Nous ne sommes pas exhaustifs, mais c'était quand même un énorme morceau, le premier Divinity Original Sin. Mmh. Mais là, on va presque au-delà. On va peut-être dans des contrées qu'on n'aurait jamais imaginées dans un jeu vidéo. En tout cas, ça va très très loin. C'est-à-dire presque la première pierre posée il y a un certain temps par Baldur's Gate et qui a évolué, qui a grandi, qui est arrivé à une immensité qui arrive avec ce Divinity Original Sin 2. L'accent anglais tout pourri, hein, mais voilà, des fois on lit comme ça, Divinity Original Sin 2, hein, voilà. Je ne vais pas l'essayer en version anglais. Larian Studios, on se rappelle donc du premier qui était en 2013, quelque chose. Oui,
Ils ont eu le Kickstarter en 2012 et sorti en 2013 peut-être.
Et là, on retourne sur Kickstarter parce qu'on aime bien ça, et donc ils étaient retournés sur Kickstarter en août 2015. Ils visaient à réunir 500 000 dollars quand même, performance réunie en 12 heures, hein, voilà. Et ils ont engrangé plus de 2 millions de dollars pour ce projet. On rappelle le genre, hein, si j'ai cité Baldur's Gate, c'est pas, j'aurais pu citer Neverwinter Nights. Ensuite, c'est ce type de jeu de rôle en 3D isométrique avec une ampleur dingue, un univers énorme à visiter. Et on est dans ce carcan-là, mais avec encore une fois une ampleur démultipliée. Tu y as passé du temps, Yann.
Oui, tout comme j'ai passé énormément de temps sur le premier. Le premier Original Sin, en fait, je comprends pourquoi il était passé en dessous des radars, parce que déjà, la saga Divinité est une saga qui remonte à bien plus loin que ce jeu-là, puisque c'est un peu le fer de lance du studio Larian, donc un studio flamand, né dans les années 90, et qui a fait plein d'épisodes. qui n'ont jamais vraiment marqué au-delà que des fanatiques du genre. Et Divinity, avant tout, c'est, même si le traitement est exceptionnel, on va y revenir, ça se base quand même sur un univers très donjons et dragons, très classique. Il y a des orques, il y a du nain, il y a tout ce que tu veux. Donc il y a ce côté un peu déjà vu dans le décorum qui peut te dire on a déjà soupé du Baldur's Gate. Surtout que là, ça assume une espèce de cheminement rétro en termes graphiques, c'est-à-dire qu'on revenait à cette fameuse vue ISO que seul aujourd'hui les jeux Kickstarter comme Pillars of Eternity ou Planescape Torment ont rétabli. Donc le fait est que l'attirance et justement l'espèce de gouffre chronophage que représente Divinity n'est pas sur son univers, parce que c'est toujours des scénarios très classiques. C'est plutôt dans le pari qu'a fait Larian en disant « Ok, vous croyez connaître le jeu de rôle, mais en fait, on ne l'a jamais vraiment fait sur un ordinateur. » Et c'est juste le fantasme de dire « On va vous rappeler ce que c'était que les jeux de rôle papier ou les jeux de rôle sur table entre vos potes, avec un maître du jeu qui dessine de l'ossature narrative. » Donc ça, c'est eux, les game designers, et vous, qui à un moment prenez une décision et que chaque décision ait une conséquence. Et ça, c'est un peu fou sur le papier parce que beaucoup de jeux se sont cassés les dents là-dessus. C'est-à-dire que la plupart te proposent un embranchement multiple, mais finalement, dans les réalisations que tu faisais, ça a ramené toujours à quelque chose de très linéaire et très anglais. Mais eux, y étaient parvenus parce qu'ils proposaient ce même système de dialogue où tu peux vraiment choisir ta voix. Mais c'était surtout dans le gameplay lui-même de résolution de souvent des énigmes ou des quêtes, parce qu'ils allaient chercher du côté du jeu d'aventure ou du point and click avec des systèmes de mécanique et tout ça, qui faisait que effectivement une quête pouvait se remplir de plein de manières et avait toujours une conséquence par rapport à tes choix. Et vraiment, tu avais cette illusion-là, parce que ça restait une illusion, oui, le jeu était quand même très drivé. Et donc, avec le 2, ils reprennent exactement le même système. Vraiment, tu es en terrain conquis, il n'y a pas de problème. Le jeu est beaucoup plus beau, puisqu'ils ont eu de la techno, ils ont pu créer leur propre moteur vraiment maison et le pousser à des degrés. Enfin, maintenant, c'est sur... c'est certes de l'ISO, mais il y a des différents degrés dans les décors, des niveaux, et certains sont absolument fantastiques à regarder.
En termes de beauté visuelle, c'est ouf.
Et il y a un sens du détail qui est génial. Mais là, vraiment, l'ambition, c'est que le premier pouvait se faire à deux. Tu dirigeais, quand tu jouais tout seul, un duo d'aventuriers, et il y avait vraiment la possibilité que n'importe qui puisse popper dans ta partie et prenne contrôle de l'autre. Et du coup, ça crée un système de soit de coopération, soit de mésentente, c'est-à-dire que tu pouvais faire le jeu chacun dans ton dos si tu t'engueulais sur un problème de quête. Et là, ils l'ont pas ramené à deux, mais à quatre. Et donc, tu gères à la fois quatre aventuriers si tu veux rester tout seul. Avec la nouveauté, c'est que tu peux soit créer ces quatre personnages entièrement de toutes pièces, vraiment tu les fais comme tu veux, soit tu peux choisir des espèces de, on va dire, de parangons, de modèles qui ont été préécrits, et notamment par Chris Avellone.
Donc on choisit parmi cinq personnages,
Je ne sais pas combien de races, je ne sais pas combien de classes, et effectivement tu as ce qu'ils appellent des destins.
Voilà, tu as cinq destins disponibles, ça va d'un nain qu'on appelle le fauve, un lézard, le prince rouge, Sébil, l'os,
et surtout un mort-vivant qui est peut-être le personnage le mieux écrit, un peu à la médiéville, qui rappelle un peu l'humour noir qu'il y a pu avoir dans Planescape Torment avec la tête de mort qui t'accompagnait. Et donc t'as ce système là que tu peux vraiment faire tout seul et t'auras toute la liberté que tu as envie. Mais alors en multijoueur, ça devient complètement fou, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à améliorer encore un système qui était déjà limite parfait en termes de juste de choix, c'est-à-dire que n'importe qui peut à un moment dire bah non, moi, je suis pas d'accord avec votre décision, je vais faire ma vie tout seul, et le jeu ne rencontrera pas de barrière technique de l'ordre du bug narratif. Vraiment, il y a cette possibilité, il y a ce réservoir des possibles qui est concentré dans un monde qui est grand mais qui paraît très petit à côté d'un Witcher, mais quand même qui concentre une dose de détails de possibles narratifs qui moi m'hallucine. Et Ajouté à cela, tu as un système de combat tour par tour qui est dans le même état d'esprit, qui joue sur...
La tactique, enfin le placement... Les...
Déjà la tactique un peu à la XCOM, mais surtout ils ont vraiment inventé ce qui est les aires d'effet, c'est-à-dire que n'importe quel tonneau, baril, qu'il soit de poison ou d'huile et tout ça, tu peux l'enflammer certes, mais tu peux contrecarrer avec un contresort. Enfin, t'as tout un système d'échelonnage de possibilités tactiques qui est vertigineux. Et c'est marrant parce que Tacoma, j'ai dit, ça m'a déçu parce que j'étais pas surpris. Divinity, je suis absolument pas surpris, mais c'est poussé à un tel rang d'art, d'artisanat, de savoir-faire. Ouais. Peut-être moins sur la dernière partie parce qu'on sent qu'ils ont été un peu obligés de rusher et il y a peut-être moins de liberté sur les embranchements. Mais voilà, si on veut se faire une idée de ce que peut le jeu de rôle actuel par rapport à son héritage.
Tu disais qu'il y a 4 joueurs possibles, plus un maître du jeu.
Alors il y a le mode maître du jeu qui est un éditeur de scénario.
Un éditeur de scénario façon Neverwinter Nights.
Alors j'ai pas encore essayé, mais oui, c'est en temps réel, tu décides de tes règles en amont et tu vas tout un système qui se fait par micro, j'imagine. Non, c'est de la folie.
C'est très très impressionnant. Et en termes d'écriture, et alors parce qu'il y a les embranchements, les grands embranchements ou les petits embranchements de scénario, mais il y a les embranchements de dialogue qui semblent à la limite de l'infini, c'est-à-dire tu vas avoir des dialogues qui vont être faits si tu as des personnages qui ont un destin, donc des dialogues en fonction du destin de ton personnage préécrit. Après tu as les dialogues qui vont être là en fonction des compétences, des caractéristiques de ton personnage, s'il est intelligent, séduisant, ce genre de choses. T'as juste l'impression qu'à chaque rencontre, il y a une tonne d'écriture et toujours ce t'as dit le mot vertigineux, mais j'ai juste l'impression que c'est ce qui décrit Divinity. C'est qu'à un moment, tu choisis d'aller dans un... Tu choisis une direction, puis il y a toujours ce sentiment que t'en laisses tomber plein, que tu laisses tomber 80% de l'écriture de la situation que t'es en train de vivre, tu la verras jamais. Parce que tu vas... Ou alors...
C'est pas intimidant,
en mode replay value, mais il faut avoir quand même des heures de vie à passer là-dessus. Hein.
C'est pas intimidant, un jeu comme ça, avec un réservoir de dizaines d'heures, quand on n'est pas un spécialiste du genre, est-ce que c'est pas un peu flippant quand on...
Oui, mais c'est un contrat, le RPG, généralement.
C'est pour ça, est-ce que c'est pas un peu...
Moi, je trouve que, justement, ce qui est admirable dans leur démarche, et ce, depuis le premier Original Sin, c'est qu'effectivement, ça se fait en mode entonnoir, mais inversé. C'est-à-dire que tu commences très doucement, avec des choix qui paraissent mineurs et qui t'impliquent pas trop. Des quêtes sont vraiment assez faciles. Et puis tout d'un coup, tu arrives dans la deuxième ou troisième zone, qui est une ville ouverte.
Et
normalement, tu as déjà été formé.
C'est plutôt bien.
Ça commence sur un bateau avant d'arriver sur, sur la ville. Donc c'est,
Et puis si t'aimes, ça reprend ce qu'a réussi à faire les Bethesda sur les Elder Scrolls, sur Skyrim et tout ça. Et surtout, moi, je trouve que c'est un jeu qui fait du bien par rapport à ce qu'a fait Bethesda aussi avec Fallout. C'est-à-dire que Fallout, notamment le système de dialogue, a été quand même un aveu d'échec terrible. C'est-à-dire qu'on passait de cet embranchement génial qu'avait posé Fallout à cet arbre de A4 qui était équivalent à des émotions du personnage. Ouais. Donc vraiment, c'était déprimant possible. C'était une régression terrible. Et là, ce jeu-là assume le fait que non seulement c'est encore possible, mais qu'il y a tout à inventer par rapport à ce système-là. C'est pas du tout archaïque, au contraire. C'est vraiment une voie possible et qu'il faut vraiment continuer
à explorer.
Mais
alors, il faut des gens qui écrivent.
C'est vrai que c'est un jeu très bavard. Oui.
Il y a à lire, mais
ils sont beaucoup dans le studio à bosser dessus.
Quasiment doublé d'effectifs entre dans l'évolution. C'est un studio qui est très intéressant, Larian, parce que qui a connu je sais pas combien de galères et qui a à un moment décidé ok, on va faire des jeux en indé parce que les éditeurs se foutent de nous, mais qui a survécu en faisant du jeu ludo-éducatif. Et donc ça a toujours vivoté à une trentaine de personnes, je crois. Et là, je pense que ça va un peu mieux. Franchement, par rapport à l'ampleur du jeu, ils sont pas nombreux. C'est à taille humaine, vraiment.
D'accord. Ouais.
Divinity Original Sin 2. Et puis là, on va aller. Allez, on attaque. On attaque le lourd, hein, le truc qui fait peur, le lourd, le sang qui tâche avec The Evil Within 2.
Ce psychopathe court toujours dans la nature. Et il a toujours Lily.
Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin.
Ça suffit les tirades artistiques à la con. Où est-ce qu'elle est ?
J'avais tellement pensé.
Nous avons le même objectif, Sébastien.
Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi.
The Evil Within 2, Shinji Mikami aux commandes, enfin producteur exécutif. Hein, là oui, pour. Oui, il y a des gens, il y a un réal, il y a ce jeu que j'ai pas noté. Donc voilà.
Qui a pris les commandes de cette suite.
Eh bah, ben, oh, bah, allez-y, hein, écoutez.
Et qui avait dirigé les DLC qui avaient été très appréciés, c'est rare.
Alors, qui était très apprécié, mais qui marquait déjà une rupture par rapport au jeu original. Moi, je suis un fan, on va tout de suite mettre les choses. On va poser les bases tout de suite, on est entre nous. Moi, je suis un fan absolu du premier, The Evil Within, on en avait parlé.
Tombé des bras.
Alors, moi, je suis vraiment un fan. On en avait parlé il y a 3 ans maintenant, c'est déjà 3 ans. Hein. Je l'ai refait, justement, une semaine avant d'attaquer le deuxième, et j'ai encore plus apprécié le premier. Je trouve que je l'ai refait vraiment 3 ans après, et je trouve que le premier, c'était une fulgurance. Déjà, on retrouvait tout Mikami aux commandes, et ça se sent à chaque moment du jeu. C'est truffé de clins d'œil à toute l'histoire du game designer, Resident Evil, son amour du cinéma d'horreur classique aussi. Il y a beaucoup de passages un peu genre Hammer Film. Il y a beaucoup de gothique dans le premier. Et puis, c'est un pur... Pour moi, le premier, c'est vraiment une expérience vidéoludique très particulière. On est presque sur de l'expérimental. On a un scénario un petit peu prétexte pour un enchaînement de scènes d'anthologie. Pour moi, c'est vraiment ça, le premier. C'est une compilation comme ça de scènes pour se faire plaisir dans le domaine de l'horreur. Et c'est, pour moi, c'est vraiment... En le refaisant, là, récemment, je me suis dit, bon sang, il est vraiment excellent, ce premier Evil Within. Il crée vraiment quelque chose. Et puis, c'était un jeu brut de décoffrage qui y allait vraiment. Et puis, qui était pour moi le descendant direct de Resident Evil 4. C'est-à-dire que le 5, chez Capcom, avait pas mal déçu. Là, ce jeu-là, pour moi, c'était vraiment la suite, philosophique du 4. Et un vrai pied, pour moi, de le refaire. Le deuxième, on l'a dit, donc il y a un changement de directeur. Ça, c'est important parce que Mikami est toujours là, mais en tant que producteur, donc je pense qu'il est un petit peu plus en retrait quand même sur ce développement. Il a toujours son mot à dire, évidemment. Mais on sent que donc ce game designer américain qui a produit les DLC du premier, qui était justement qui marquait une rupture puisqu'on incarnait un autre personnage, et aussi parce qu'il y avait un apport plus orienté vers l'infiltration, c'est-à-dire qu'on était moins dans l'action pure et dure, et on avait une autre orientation du jeu qui était plutôt intéressante d'ailleurs, parce que ça apportait une autre dynamique à l'univers de cette franchise qui venait juste de se lancer, donc ça apportait un autre regard. Là, ce deuxième opus, il est clairement orienté dans ce qu'avaient proposé les DLC à l'époque. C'est-à-dire qu'on est sur une approche beaucoup moins frontale de l'action, à mon sens. On est sur un jeu qui a tendance à chercher à plus rationaliser les choses que le premier, qui était pour moi une espèce de trip hallucinogène, le premier. Pas toujours bien expliqué. D'ailleurs, le scénario était un peu difficile à suivre, mais c'était pas grave, parce qu'on était sur une pure expérience sensorielle et de pur gameplay, et c'était jouissif quand on aime ce genre de jeu. Là, sur le deuxième, on sent qu'il y a vraiment une recherche d'approfondir les personnages, de donner plus de psychologie aux héros. Donc, on va peut-être resituer rapidement. On retrouve donc... Sébastien Castellanos, qui est le détective.
Je peux ou pas, parce qu'il y a un moment au niveau du scénario, ils ont abandonné.
Non, je suis pas d'accord, ils ont pas abandonné. Au contraire, je trouve que sur le deuxième, il y a une recherche, justement, pour donner un peu plus de cohérence.
Je résume. Un homme brun, mal rasé.
Alcoolique.
Alcoolique.
Parce qu'après, ce qu'il a vécu dans le premier.
Genre, le héros... type de jeu vidéo, qui s'appelle Sébastien quelque chose, a perdu sa fille,
C'était un acquis dès le début du premier. Enfin,
pour quelqu'un, il a perdu sa fille. Une certaine meuf que on calcule pas, Kidman, vient le voir. Ta fille est vivante, mais pour la sauver, il faut que tu ailles dans un univers parallèle, que tu ailles la chercher. D'ailleurs, on a envoyé 4 personnes dans cet univers parallèle qui s'appelle le STEM. Ils ont eu des problèmes.
Gros problème.
À la limite, si tu pouvais les retrouver en même temps que t'es là, ça nous arrangerait. Et hop, bim, il y va. Et c'est parti pour le train fantôme.
Alors, après moins Train Fantôme, justement, que le premier. Ouais. Pour moi, le premier, c'était un pur Train Fantôme, comme je disais, et vraiment pure action, actionneur, avec un scénario un petit peu en filigrane, mais qui n'était pas si important que ça. C'était un pur jeu d'action. Là, on sent qu'il y a une volonté, sur le scénario, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'enrichir un petit peu, d'épaissir l'univers, justement, avec cette histoire d'une machine qui permet de connecter les cerveaux, avec une ville idéale qui a été bâtie pour justement réunir les gens, et qui est complètement partie en vrille avec. Des zombies partout.
C'est Inception,
Et The Cell aussi, un film qui jouait aussi sur l'exploration de la psyché torturée. Mais surtout, comme le premier était pareil, un jeu qui accaparait plein d'expériences, d'influences. On parlait de Resident Evil évidemment, mais il y avait beaucoup de choses du cinéma horrifique dans le premier. Là, on sent qu'il y a pas mal de choses, notamment dans le jeu vidéo. On pense beaucoup à Silent Hill, avec ce père qui part comme ça à la recherche de sa fille dans une ville maudite. On pense beaucoup à The Last of Us. Et là, ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'autant dans le premier, on sentait que c'était plus des clins d'œil, notamment du réalisateur qui avait lui-même réalisé les jeux lui-même. Enfin, c'était ses jeux à lui qu'il citait parfois, ou son équipe. Là, il y a vraiment des passages où on sent l'influence nette de The Last of Us. Et je trouve que ça fait un peu, ça se prête pas forcément à cet univers, notamment sur le côté infiltration qui est beaucoup plus développé. Et puis il y a un simili monde ouvert, c'est aussi la grande nouveauté de cette suite, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un train fantôme avec un enchaînement de niveaux comme ça qui se suivait avec juste un hub un petit peu central. Là, on a un peu de prétention de monde ouvert qui relie, la ville est construite autour de plusieurs passages en monde ouvert. Qui cherche à donner encore une fois une cohérence un peu plus importante scénaristique et qui cherche à rationaliser encore une fois l'expérience de jeu. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée, parce que moi, ce qui me plaisait dans le premier, c'était cette espèce de trip hallucinogène, pas forcément bien expliqué, mais purement sensitif et de gameplay. Et là, je trouve qu'on sent que le jeu patine à essayer de donner une cohérence à tout ça, à mélanger, en fait, à accaparer plein d'influences. The Last of Us, on le cite parce qu'il y a l'infiltration qui... Moi, ce qui me dérange, c'est que The Evil Within, c'était du pur jeu d'action qui s'assumait comme tel, qui était vraiment du Resident Evil 4. Là, on a une composante infiltration qui est un peu mise au forceps, qui n'est pas toujours très fine. Je trouve qu'elle arrive un peu comme ça, et ce n'est pas forcément ce que nous vend le titre.
Pour tout dire, je n'avais pas forcément hyper envie de l'aimer.
Tu n'avais pas eu le premier, déjà.
J'étais pas rentré dedans.
C'est important, parce qu'on a deux vécus différents. Le public
a ceux qui vont avoir le premier. Autant la mise en place a été très douloureuse, j'ai trouvé que le...
Le scénario,
je sais pas, pour le scénario, je suis pas allé hyper loin, mais
moi, j'avais pas des attentes non plus scénaristiques après le premier.
Non, mais moi non plus. C'est vrai que les premières confrontations avec l'élément, avec l'architecture, il y a des trouvailles visuelles qui sont dingos. Et là, pour le coup, je peux me contredire moi-même, parce que finalement, j'en attendais pas beaucoup, et j'ai trouvé que visuellement, il y avait quelque chose de très et malsain et hypnotique en même temps, enfin une sorte de combinaison qui est assez bizarre, et
tout en quittant complètement l'univers du premier, parce que le premier, comme je disais, il était dans vraiment orienté gothique, qui avait vraiment cette personnalité. Là, on est sur quelque chose de plus contemporain. Qui tranche vraiment, je trouve, avec les bases du premier, et qui peuvent perturber vraiment quand on commence.
Franchement, j'ai les trouvailles, le photographe qui capture des scènes comme ça dans le temps, et des scènes 3D dans le temps comme ça autour desquelles on peut tourner. Et
c'est vrai que plastiquement,
c'est très très beau, je sais pas si c'est le mot, parce que vu les scènes qu'il capture, pour le coup,
non,
c'est...
Non, mais la mise en scène. La mise en scène est...
C'est des trouvailles.
C'est une esthétique.
Voilà, il y a une trouvaille, une esthétique de l'horreur, en fait, qui est là, et qui, j'avoue, fonctionne étonnamment bien, en fait. Je sais pas, Yann, t'as...
Moi, je mets un gros conditionnel, parce que je suis pas très loin dans le jeu, mais... Je dois avouer que pour l'instant, je suis beaucoup plus convaincu par celui-là que le premier. Oui. Le premier, j'avais bien aimé, parce que... Mikami posait vraiment une question, c'est est-ce que le survival horror que j'ai, il l'a pas inventé, mais on va dire il l'a popularisé, est-il encore contemporain? Est-ce qu'on peut faire du jeu vidéo moderne avec ce système-là? Parce que survival horror, c'est vraiment un genre très très codifié, et notamment qui est codifié à une seule vue. C'est un des genres qui aime le plus à torturer son joueur et à le frustrer. Oui. C'est-à-dire que c'est un genre qui non seulement
assume le côté survie, c'est-à-dire vie et munitions très limitées, mais surtout une rigidité de gameplay, c'est-à-dire effectivement on est dans un jeu d'action, mais au niveau des placements de caméra, des mouvements du personnage, c'est fait exprès que le personnage se dirige mal, parce qu'il y a tout l'effet justement horrifique et de vulnérabilité par rapport au monde dans lequel il évolue.
Le cinémascope.
Et le cinémascope.
Quand j'ai fait le premier, j'ai halluciné du parti pris de l'image cinémascope qui fonctionne bien en plus.
Comme parti pris, je trouvais ça intéressant. Dans la pratique, quand même, l'action, justement, de passer au jeu Naughty Dog, pour prendre que l'exemple là à celui-là, ça passait par des moments de frustration et d'énervement qui je trouvais superflu. Et surtout, la position de Mikami était parfois en mode Nyark-Nark, c'est moi l'auteur, je fais ce que je veux, je te manipule autant que je veux. Donc il y a ce côté un peu sur-auteur qui me dérangeait, notamment parce qu'au niveau du scénario, on était dans une sorte de vide intersidéral qui était vraiment dommageable. Là, je trouve que justement, la position de Johanna, c'est beaucoup plus humble par rapport à son sujet. Alors, scénaristiquement, non, effectivement, on part dans le n'importe quoi, mais j'aime beaucoup l'idée d'assumer.
Pour moi, c'est pas tant le n'importe quoi que l'enchaînement de clichés.
Oui, enfin, oui, voilà. Bien sûr.
On est en zone connue.
Oui, ça fait pas partie aussi de la charte du.
Bien sûr. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment super et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un jeu qui cherche d'abord à reproduire un monde mental, donc un cerveau qui est lui-même nourri à tout un imaginaire, et du coup, et surtout nourri de traumas qui donne forme à des monstres. Et je trouve que la découverte. Déjà de la fameuse bâtisse du photographe donc qui ouvre, on va dire, l'horreur, hein, parce qu'avant c'est la présentation des personnages. Toute la disposition de l'espace où tu arrives quand même dans une salle avec un carrelage blanc et noir et des tentures rouges. Donc la citation à Lynch et à Twin Peaks manifeste.
J'ai ressenti exactement la même
chose. Et ça marche à fond. Enfin, je trouve, déjà le jeu est beau à pleurer sur ses éclairages, parce qu'on est effectivement dans une logique très expressionniste, des films à la Murnau et même à la Hammer, évidemment. Mais aussi, cette structure ouverte qui est vraiment la vraie nouveauté du jeu, quand tu arrives dans cette ville qui est elle-même morcelée en plein de petits îlots flottants, je sais pas, c'est un jeu de vision en fait. C'est un jeu plutôt que d'action ou de plaisir, c'est un jeu qui aime travailler l'arrivée du joueur dans un espace et juste le mettre en scène. Et rien que pour ça, je trouve ça hyper fort, hyper beau. Et la structure ouverte fait que le côté survival marche moins sur la difficulté. C'est-à-dire que j'ai jamais été en position de faiblesse parce que tu es tout le temps en train d'aller crafter, d'aller looter, d'aller machin.
On craft beaucoup en fait. On passe beaucoup de temps.
Tu sens que Bethesda a un peu intervenu quand même.
Cet aspect, mais là c'est boosté. On a les deux arbres. Maintenant on a deux arbres de compétences.
De compétences
pour le héros et puis pour les armes avec les établis, etc. Tout ça a été modifié aussi.
Mais là c'est vraiment une situation de manque.
Non, mais ça demande beaucoup de temps d'exploration du monde ouvert.
C'est vrai.
En revanche, là, moi j'ai eu l'impression un petit peu que c'est là où le jeu se perdait, c'est dans ce monde ouvert. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas complètement accaparé, il ne l'a pas bien cerné.
Moi j'attends de voir sur la longueur, en fait, c'est ça qui va.
Et moi justement, au bout de pas mal d'heures de jeu, je me suis rendu compte que là où je tripais, c'est le moment où le jeu se réduit un petit peu et nous reprend la main en fait. Nous remet dans les combats avec les boss, ou les moments beaucoup plus, où on retrouve finalement les parties prises de mise en scène qu'avait Mikami dans le premier. C'est-à-dire que là, il prend la caméra et comme tu dis, il joue avec nos limitations de vision, etc. Il nous stresse comme ça et ça marche bien. Parce qu'on se retrouve avec ces parties prises mise en scène, là ça fonctionne. Et plus j'y réfléchis, je me dis que finalement c'est dans le ventre mou, il est dans l'open world qui est décevant.
Qui n'est pas toujours une bonne idée.
Et notamment dans le genre horrifique, est-ce que l'open world est une bonne idée dans un jeu qui veut nous faire peur? Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, je pose la question. Je sais qu'il y avait un Silent Hill aussi qui avait tenté l'open world. J'en ai pas un souvenir monumental. C'est une question. Ouais. Ce jeu-là tente des choses. Il réussit certaines, notamment le système de mémoire, un peu comme dans le Tacoma, où tu peux revivre aussi des passages comme ça. Ça marche plutôt bien, parce que ça peut aussi nous motiver à aller explorer un petit peu le monde ouvert. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que c'est là où le jeu se perd un petit peu. Et il perd de sa force, sa puissance, aller dans les moments vraiment plus linéaires.
Il y a aussi un truc, juste très très vite pour terminer, pardon.
Voilà.
Il y a quelque chose qui me fait peur dans les jeux Bethesda, c'est cette espèce d'uniformité de certains trucs de gameplay notamment ils ont rajouté des systèmes de dialogue c'est Fallout qu'ils sont dans une espèce de pensée
t'as 3, 3, 4 propositions tu les fais tous parce que puis
c'est une erreur c'est un détail
oui c'est vrai j'y ai pensé parce qu'au début j'ai cru que ça allait être plus exploré justement le côté dialogue et en fait non ça sert quasiment à rien.
Allez, Evil Within 2, donc majoritairement quand même, assez bonne surprise.
Très bon jeu, bonne surprise. Attention, si vous avez vraiment aimé le premier, il y a un vrai changement de paradigme dans le jeu. Il faut juste le savoir, mais ça reste très intéressant.
Alors, on va rester, parce qu'on a parlé de Tacoma, et le point commun avec Observer, c'est quoi ?
L'horreur et la vue subjective.
La date.
La date.
Tacoma et Observer se passent dans les années 2080, monsieur. On reste. On est en Pologne. On n'est pas sur. On n'est pas en orbite, mais en Pologne. Et Observer, on est à fond et là, sans limite, dans ce qu'on appelle le cyberpunk. Observer. Commencing neural interrogation. Observer, donc jeu qui se passe en Pologne d'un studio polonais, mais ça fait plaisir quelque part que ce soit ancré chez eux, Varsovie en français. On incarne Daniel Lazarski, qui est un observeur, c'est-à-dire finalement on va résumer un enquêteur cybernétique qui a la possibilité de visiter les souvenirs des gens. Et donc voilà, il y a quand même sur l'année et sur la thématique des souvenirs, j'ai rarement ressenti la veine cyberpunk autant. Les univers de William Gibson ou de ces auteurs phares de la tendance cyberpunk, en attendant le cyberpunk
CD Projekt,
voilà, merci.
Force, on l'a oublié nous.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on commence dans sa voiture en recevant un coup de fil à moitié pirate. Et là, il faut aller enquêter direct. Alors, Observer.
Tu parles du cyberpunk. Le jeu aussi se situe vraiment dans la mouvance par un cadeau que je considère comme un cadeau. C'est-à-dire que le personnage que tu incarnes est doublé par le fameux Rutger Hauer, donc l'inoubliable réplicante dans Blade Runner, donc forcément...
Il n'a pas fait que ça, malheureusement.
Non, bien sûr, mais là, c'est évident qu'ils l'ont choisi pour ça, tant plus que l'acteur, depuis, a vieilli, a pris cette voix, justement, de très, très bogartienne, tu vois, du privé, nourri à la clope et au bourbon, et il y a ce vécu dans cette voix qui, moi, déjà, m'a fait rentrer dedans, et j'ai dit, ok... Vous pouvez me servir tout ce que vous voulez en termes de clichés déjà vus sur le cyberpunk, et c'est un peu le cas, mais ça passera tout seul.
Ne va pas suivre Rutger Hauer partout non plus, parce que je crois que c'est une autre question. Mais...
Et du coup, ouais, effectivement, c'est un jeu qui se présente comme à la fois un walking sim pur, c'est-à-dire que les interactions sont quand même très limitées. Tu es appelé dans un lotissement d'appartement où tout le monde est enfermé et connecté à la réalité virtuelle et drogué à ça. Et du coup, la seule interface que tu as avec les habitants, c'est un mini écran devant leur porte qui moule leur œil complètement éclaté la plupart du temps, et c'est un système de dialogue. Mais toi, tu es appelé sur une affaire sombre et qu'on devine de meurtre, et tu as la capacité en tant qu'observeur à la fois d'utiliser ton implant cybernétique pour lire le décor et déceler des indices qui pourraient s'en...
Façon Batman.
Voilà, très clairement.
On est très bon façon Batman.
Très clairement, et ça aide justement à résoudre certains puzzles, mais surtout la faculté qu'il a, c'est de pouvoir brancher son espèce de câble, là, un peu, une sorte de câble USB, au réseau neuronal de gens, souvent des victimes qui sont mortes ou en voie de mourir, et il va fouiller leur inconscient une dernière fois pour essayer de trouver des indices visuels. Et là, le monde bascule de la réalité qui est quand même extrêmement noire, il pleut tout le temps, voilà, très cyberpunk, il y a des néons, voilà, tout est crade, les environnements sont éclatés, les murs sont pourris, les chiottes, et tout d'un coup, tu bascules dans ce régime qui est l'ordre de la psyché pure, mais psyché qui est blessée, qui est morcelée, parce que elle est pleine de glitch, c'est vraiment un programme qui est vérolé, et tu essaies de faire la part de réalité, enfin de...
de concret et d'abstraction que tu dois laisser de côté. Et là, le jeu bascule vraiment dans l'horreur assumée, mais dans une forme d'horreur un peu à la Mikami, où tout d'un coup, ça devient très très mental, et tout un régime qui fait passer le jeu presque proche de l'art contemporain, de l'art vidéo. Et moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu-là, parce que c'est fait par les mecs de Layers of Fear, Bloober Team, qui est un exercice très dans l'esprit de ce jeu d'horreur en vue subjective dont je viens d'oublier le nom, qui a un peu lancé la mouvance... ceux qui ont fait Soma, Amnesia. Donc Layers of Fear était très trop dans le classicisme et dans cet exercice très train fantôme,
mise en scène, ouais. Mais qui était plutôt réussi, il y avait des bonnes choses.
Oui, ça marchait très bien, notamment en termes graphiques. Et là, le jeu est absolument magnifique parce qu'il est sous Unreal 4. Mais je trouve que le jeu, en plus, est très très beau dans les thématiques qu'il pose, qui sont des thématiques très connues du cyberpunk, certes. Mais je trouve qu'à la vision, à la lueur de ces fameuses séquences hallucinées, ça devient très 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 fort. Et oui. L'héritage de Rutger Hauer et de Kadic et tout ça se retrouve. Et moi, je trouvais un jeu assez passionnant, inattendu.
Il y a une cohérence globale, voilà. qui est assez assez impressionnante. On va terminer très vite parce qu'on pouvait pas quand même terminer ce retour sur l'été avant la sensation française, on va dire, de ces derniers mois. En plus édité par Devolver Digital, hein, qu'on connaît. Les développeurs, c'est Slowclap, des anciens d'Ubisoft Paris qui ont décidé de partir en indépendant et de proposer un truc jamais vu, un système de combat modulable, voilà, un jeu de combat classique, mais pas classique. Ça s'appelle Absolver. Absolver, Slowclap, le studio Slowclap, studio français d'anciens Ubisoft Paris. Donc, on est sur du jeu de combat, mais mélangé avec ce monde ouvert, mélangé avec du multijoueur intégré, des decks, des cartes de coups qu'on va pouvoir organiser soi-même pour créer son propre style de combat. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann?
C'est un jeu que je suivais depuis longtemps parce qu'il a quand même pris quelques années de développement. On peut comprendre parce que l'ambition est quand même assez forte. C'est un jeu que j'ai plutôt bien apprécié, voire beaucoup apprécié, parce que effectivement il y a ce pari de proposer une sorte de combo entre le jeu de baston classique, le beat'em all tel qu'on le connaît, avec mais plus versus fighting, hein, plutôt que Double Dragon, on va dire, avec ce système de customisation de coups au fil de l'expérience qui, au départ, est un peu nébuleux à saisir, mais qui prend une ampleur une fois que tu commences à te familiariser.
Surtout qu'il gère la courbe d'apprentissage.
Complètement. Ouais. Et il mélange ça à... Alors je sais qu'il faut arrêter aujourd'hui les comparaisons à la Dark Souls, mais j'ai retrouvé vraiment des sensations dans le fait qu'il te plonge dans un monde, on va dire, proto, post-apocalyptique, enfin vraiment le côté très, très primitif, voilà, de retour à l'état sauvage où tu n'es qu'un homme masqué, tu dois te battre avec d'autres pour accomplir une forme de rituel. Mais la façon dont le level design est orchestré, qui est plein de raccourcis, de portes que tu débloques au fil des affrontements, et surtout le côté très mystérieux, c'est un jeu qui ne te tient pas du tout par la main, qui est fait justement de décors très grandiloquents, mais surtout qui aime à garder cette forme de nébulosité, ouais, autour de son univers, et surtout de la difficulté, parce que c'est un jeu certes connecté, mais il y a toute une partie solo parce que tu es dans cet environnement et tu dois affronter une série de boss qui sont, je dois avouer, l'IA est quand même très très bien rendue parce qu'ils sont sacrément coriaces. Et tu as on va dire, c'est un long tutoriel pour toucher au cœur de l'expérience, c'est-à-dire le jeu multijoueur et l'affrontement en duel, où là le jeu je trouve très 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 intéressant dans sa manière de d'assumer ce côté retour à l'état sauvage et primaire de la baston. C'est-à-dire que chaque mandale que tu prends, il y a notamment au niveau du sound design, tu sens vraiment la mâchoire qui craque ou la colonne qui craque derrière. Et t'as ce côté, t'as vraiment cette impression de dire le versus fighting est devenu ce qu'il est, notamment avec tous les jeux genre les DC et tout ça où les coups spéciaux sont très très mis en avant. Il y a le côté très graphique. Là, on revient vraiment à ce que c'est que le coup de base et à comment l'orchestrer, à se familiariser, à l'apprivoiser et à en faire une sorte de logique stratégique. Et je trouve que ça marche très 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 bien. Voilà. Après, j'espère que le jeu va connaître une deuxième vie parce que c'est quand même son but, c'est de durer en multijoueur.
Il avait très bien démarré.
Il a très bien démarré.
Très très bien démarré sur le niveau des ventes sur Steam, mais on sent effectivement que c'est le jeu qui doit se créer une communauté, qui doit fonctionner. Comme tu l'as dit, la campagne, c'est l'apprentissage et c'est tout se passe en ligne ensuite. Voilà, désolé, on a été un petit peu vite sur ce dernier, mais on a quand même pris le temps de parler des autres. Voilà, c'est fini pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé, mais encore une fois, vous allez devoir aller vite parce qu'on est déjà, on a déjà dépassé. Bref, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Yann ?
Je viens de commencer une série sur Netflix qui est la deuxième série Netflix de David Fincher. Il est quand même très productif. Qui s'appelle Mindhunter, qui se penche sur le cas de sociologue, psychologue du FBI au début des tueurs en série quand il n'était pas encore reconnu par les institutions. Et donc on se plonge dans le quotidien de cet homme qui essaie de comprendre, qui essaie d'établir un modus operandi chez ces tueurs-là. Donc c'est comme chez Fincher, graphiquement c'est toujours très 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 beau, c'est très carré.
Pas vieilli, Fincher.
Mais ça, on reste dans le même exercice de style que House of Cards, c'est-à-dire un objet très froid, très théorique, très pensé. Et le premier épisode me paraissait très justement dans cette optique-là, et j'arrivais pas à m'investir. Et dès le deuxième épisode, il y a une longue conversation entre ce flic-là et un psychopathe, qui est un modèle juste de dialogue et de mise en scène de dialogue. Et voilà, j'ai pas été plus loin que ça, mais je pense que ça va être très 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 bon. Voilà. Mindhunter.
Moi, pas grand-chose cette semaine. je ne suis pas encore allé voir Blade Runner 2049. Par contre, j'ai revu le premier. J'ai revu le premier. Je vais me faire force. J'ai le coffret de revoir toutes les versions Director's Cut, la version originale avec la voix off. J'ai envie de toutes les revoir peut-être avant de voir le 2049, qui a plutôt des bons échos. Non, mais en fait, j'ai revu donc Blade Runner, mais je trouve qu'il a pas pris in read ce film. C'est incroyable. Moi, j'ai dû le voir, je sais pas, peut-être 30 fois. Et à chaque fois que je le vois différemment. On parlait de Rutger Hauer tout à l'heure, mais je trouve que cet acteur dans ce film, il est incroyable. Ce film, j'ai l'impression que je peux le revoir à chaque fois et trouver de nouvelles choses dedans. Et ça, il y en a peu des films comme ça quand même.
Bon, moi, j'ai regardé la saison 3 de The Leftovers, saison 3 et finale, et voilà, et qui n'est pas du tout pareil que les deux autres, qui a plein de spécificités et qui tient quand même la route, qui tient la route à un point qui est assez fou, où chaque épisode est une histoire, est un point de vue, enfin, ça n'a rien à voir avec les deux autres, mais c'est complètement dingue. C'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu en série depuis très, très, très longtemps. Voilà. Là, c'est fini pour cette semaine. On a un peu dépassé, désolé. Merci à tous les deux. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.